Donc, je vais juste rappeler rapidement le contexte historique dans lequel se déroule cette histoire. Il faut d'abord utiliser un petit peu ses neurones pour comprendre le contexte. Et à partir de là, on peut voir le message qui se dégage pour nous. Donc, ça se passe vers 735-734 avant Jésus-Christ, donc le 8e siècle avant Jésus-Christ, il y a 2800 ans. Et le roi Akaz est très inquiet, c'est le roi de Juda, parce que deux autres pays, notamment Israël et la Syrie, veulent s'attaquer au pays et le remplacer par un autre roi pour que les trois pays puissent s'opposer à l'empire assyrien. Donc il faut bien faire attention entre la Syrie, qui est en deux mots, qui est le pays actuel, et l'Assyrie, L'A, qui est l'empire à l'époque. Et donc je vais juste passer à deux cartes que j'ai montrées la dernière fois pour nous rappeler. Donc voilà, on a la Méditerranée, on a Israël ici, Jérusalem, et puis ici on a Ninive, qui est la capitale de l'Assyrie. C'est le premier de trois empires qui se suivent dans la région. Et donc, ils ont commencé à former un grand empire. Donc, on voit selon les couleurs jusqu'où allait cet empire. Et les trois pays en question, c'était Israël. Donc, il faut faire attention, parce qu'à un certain moment après le roi Salomon, le pays s'est divisé en deux. Et le royaume du sud a pris le nom Juda, et le pays du nord a pris le nom Israël. Juda, la capitale était Jérusalem, je vais trouver, voilà. Et au nord, la capitale était Samarie. Et ici, nous avons la Syrie, et c'était la Syrie et Israël qui a voulu s'attaquer à Jérusalem, à Juda, pour les forcer à joindre leur conjuration, on va dire, leur complot, leur alliance pour se battre contre les Assyriens. Donc voilà le contexte. Alors je reviens un petit peu en arrière, parce que nous l'avons vu il y a 15 jours, devant cette situation, Ésaïe lui propose la confiance en Dieu. Akaz, lui, politicien, si on veut, a dit, je ne sais pas si ça marchera. En fait, il n'a pas vraiment fait confiance à Dieu. Il a plutôt fait confiance aux Assyriens. Parce qu'il a dit, puisque ces deux pays-là, la Syrie et Israël, se révoltent, les Assyriens, l'empire assyrien est très fort, je préfère me placer sous la protection volontairement de cet empire pour être protégé. Mais les choses ne se passent pas tout à fait comme cela. Et donc, le message au chapitre 7 que nous avons lu, c'était Sois tranquille, ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme pas. Mais Akaz n'est pas allé dans ce sens. Alors, on va commencer à lire le chapitre 8. On va aller assez vite pour voir l'ensemble plutôt que de rester sur des détails. D'abord, on va lire les quatre premiers versets. L'Éternel me dit, prends une grande tablette et écris dessus d'une manière intelligible. Voilà ce qu'il fallait écrire. Qu'on se hâte de prier, qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. Je prie avec moi des témoins dignes de foi, le sacrificateur Uri et Zacharie, fils de Berechia. Je me suis approché de la prophétesse, elle conçut, elle enfanta un fils. Et l'Éternel me dit, donne-lui pour nom Maher Shalal Shashbaz. Car avant que l'enfant sache dire mon père, ma mère, on apportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin de Samarie. Donc voilà, vous avez bien compris Ésaïe et sa femme ont un enfant, et Dieu leur demande de lui donner le nom Maël Shalal Shashbaz. Bon, je plains l'institutrice qu'il doit retenir ce nom chaque fois. Bon, mais en fait, on a là, en fait, les mêmes paroles traduites au verset 1, ça veut dire qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. C'est ça que ça veut dire, en fait. La traduction de Maher Shalal Shashbaz, c'est qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. Ça veut dire la guerre va venir. Et justement, c'est le sens de ce message, parce qu'avant que l'enfant sache parler, avant qu'il sache dire mon père, ma mère, les Assyriens vont venir et apporter, et ils vont s'attaquer justement à la Syrie et à Israël, ils vont même piller leurs biens, les richesses de Damas, capitaine de la Syrie, et le butin de Samarie, et l'emporter à Ninive. Donc, Ésaïe est en train de dire au roi Akaz, tu as fait le mauvais choix, parce que même, enfin, en fait, ça c'est plutôt la suite. Il dit, d'accord, les Assyriens vont venir, ils vont s'attaquer à Damas et à Samarie, mais le problème c'est qu'ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Et quand on lit la suite, des versets 5 à 10, on comprend que l'Assyrie n'est pas en fait aux ordres de Juda, et ils risquent, ce qui est le cas un peu, par la suite, de s'attaquer également à Jérusalem. Et donc, Akaz a voulu se mettre sous la protection de l'empereur, mais c'est toujours dangereux, c'est jouer avec le feu. Parce que l'empereur assyrien n'avait peut-être pas la bonne éthique des Nations Unies, donc après on fait appel à lui, mais il ne s'arrête pas en si bon chemin. Donc voilà, la suite c'est une sorte de prophétie là-dessus, où le prophète dit, il y a un petit ruisseau là qui s'appelle Siloé, c'est un ruisseau qui... près de la ville de Jérusalem, c'est en fait qui est venu après comme une fontaine intramuros pour alimenter la ville en eau. Elle dit, il aurait été mieux d'aimer ce petit ruisseau en faisant confiance à Dieu, parce que sinon le roi des Assyriens, il va venir comme un fleuve qui déborde, qui a sorti de son lit et qui va tout remporter sur son passage. Donc c'est ça en fait les versets 6 à 10 que je vais vous lire maintenant. Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement et qui s'est réjoui au sujet de Retsin et du fils de Remalia, voici, le Seigneur va faire monter contre eux les puissants et grandes eaux du fleuve, c'est-à-dire le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit, il se répandra sur toutes ses rives, il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat, mais vous serez brisés. Préparez-vous au combat, mais vous serez brisés. Formez des projets, mais ils seront anéantis. Donnez des ordres, mais ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Donc Dieu est quand même là. Il est Emmanuel. On la voit au verset 8. Le problème, Dieu est là. Emmanuel est là, mais le roi n'a pas voulu faire confiance à Dieu. Le problème, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'en fait, on a vu qu'il a fait appel au roi des Assyriens pour se protéger. Mais il y a pire. Et là, on va lire dans 2 Rois 16, c'est qu'une fois qu'il s'était mis sous sa protection, il a cherché à même adopter la religion des Assyriens. Et là, c'était pire. Non seulement il faisait confiance à l'empereur, mais il a adopté même sa religion. Donc il a non seulement il n'a pas fait confiance à Dieu, mais il a fait confiance à ses idoles. Tu vas juste lire ce texte dans 2 Rois 16. Donc, en fait, on peut commencer au verset 9, parce que ça, c'est le côté politique. Le roi d'Assyrie écouta Akaz, il monta contre Damas, la prit, emmena les habitants en captivité à Kir, et fait mourir Retsin, le roi. Mais le roi Akaz se rendit à Damas, au-devant de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie. Et ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Akaz envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet autel. Et le sacrificateur Uri construisit un autel, entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Akaz. Et le sacrificateur Uri le fit avant que le roi Akaz soit de retour de Damas. Et à son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, s'en approcha et y monta. Et il fit brûler son holocauste et son offrande, versa ses libations, répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices d'action de grâce. Et il éloigna de sa face de la maison l'autel d'airain qui était devant l'Éternel, afin qu'il ne soit pas entre le nouvel autel et la maison de l'autel. Et il le plaça à côté du nouvel autel vers le nord. Et le roi Akaz donna cet ordre au sacrificateur. Uri fait brûler sur le grand autel, donc le nouveau, l'holocauste du matin et l'offrande du soir, l'holocauste du roi et son offrande, les holocaustes de tout le peuple du pays et leurs offrandes, et verse-y leur libation, répands-y tout le sang des holocaustes et tout le sang des sacrificateurs. Pour ce qui concerne l'autel d'airain, je m'en occuperai. Donc, là. C'était mis dans un placard en quelque sorte. Et le sacrificateur Uri se conforma à tout ce que le roi Akaz avait ordonné. Donc voilà pour 2 Rois 16. Donc non seulement il a adopté cet autel, mais lui-même le roi a offert des sacrifices qui étaient complètement interdits en Israël. Il n'y avait que les prêtres de la tribu de Lévi, la famille d'Aaron, qui avaient le droit d'offrir des sacrifices. Donc il a tout faux, il a essayé de garder la forme du culte, il y avait encore des holocaustes et tout ça, mais c'était vraiment plus comme Dieu le voulait. Et c'est là qu'on arrive à la partie intéressante de ce texte, parce que on voit que Ésaïe se positionne comme un exemple, l'exemple d'un homme qui écoute le Seigneur. Le roi n'a pas voulu, mais le prophète, lui, il se place. Il se positionne comme quelqu'un qui donne le bon exemple, en quelque sorte. Je vais lire les versets de Ésaïe 8, 11 à 16. Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit et qui m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration ou complot tout ce que le peuple appelle conjuration ou complot. Ne craignez pas ce qui craint. Ne soyez pas effrayés, car c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, celui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'échoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, donc Israël et Juda, un filet, un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle. Scelle cette révélation parmi mes disciples. Donc, en attendant cette apostasie, cet éloignement de Dieu, il comprend qu'il n'y a rien à craindre à partir du moment où on sanctifie l'Éternel. J'ai fait penser à ce verset dans Matthieu 10 où Jésus dit: ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Parce que si on a le choix de qui on va craindre, est-ce qu'on va craindre les autres, est-ce qu'on va craindre l'homme ou est-ce qu'on va craindre Dieu? Et Jésus nous dit de craindre dans le bon sens, de vénérer, de révérer, d'accepter sa sainteté et sa grandeur. donc de craindre Dieu. Parce que de deux choses l'une, et c'est une alternative terrible, le verset 14. Dieu est un sanctuaire ou il est une pierre d'achoppement. Soit c'est un lieu où on est en sécurité, si on est entre ses mains, rien ne peut nous arriver qui est en dehors de sa volonté. Je n'ai pas dit que dans ce sanctuaire, on est en sécurité et rien ne peut nous arriver. Ça, j'ai pas dit. J'ai dit, rien ne peut nous arriver qui était en dehors de sa volonté et parfois pour des raisons qu'on ne peut absolument pas connaître. Certaines maladies, des accidents, de perte d'emploi, de ceci, de cela, on ne sait pas. Le grand projet de Dieu, on ne connaît pas. On ne peut pas le connaître. On peut simplement vivre en faisant confiance à Dieu. Et si on fait confiance, on n'a rien à craindre. Quand il y avait des attentats et des gens, certains ne voulaient plus monter en métro, certes, il faut être raisonnable, mais en même temps, pour nous, on craint Dieu, on fait confiance à Dieu. Par exemple. Par contre, si ce n'est pas un sanctuaire, Dieu est un pied d'achoppement, un filet, un piège. Il causera leur perte en quelque sorte. C'est une alternative terrible. Et donc à partir de là, Ésaïe et sa famille seront un signe que l'on peut faire confiance à Dieu et qu'il faut revenir à la parole de Dieu. Donc là, je vais lire les versets 17 à 22. Donc c'est Ésaïe qui parle encore. J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes, des présages, donc des signes en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Donc, des signes qui vont faire comme Dieu le veut. Alors, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts, ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas sans Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Il faut revenir à la loi et au témoignage. Si l'on parle ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Le peuple sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera. Il maudira son roi, il maudira son Dieu. Il tournera les yeux en haut, puis regardera vers la terre. Et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Donc, Ésaïe et sa famille servent de modèles, de signes, qui rejettent l'idolâtrie sous toutes ses formes. Donc là, il parle surtout un peu de ce qui est occulte, les diseuses de bonne aventure, les cartomanciens, les horoscopes, les marabouts, l'astrologie, etc., etc. Parce qu'en fait, tout c'est ce qu'on appelle, j'aime bien l'expression, mais je ne suis pas d'accord avec, art divinatoire. Comme si c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Est totalement faux, parce que finalement, Dieu seul connaît l'avenir. Donc c'est une question fondamentale. En qui plaçons-nous notre confiance? Et cette confiance, donc c'est la première chose, on peut faire confiance à Dieu, mais cette confiance vient du fait que Dieu a parlé, donc on sait ce qu'il veut. Donc il faut revenir à la loi et au témoignage. Et là encore, à la fin, c'est une alternative terrible. Ce texte que je viens de parcourir termine avec la détresse, l'obscurité, de sombres angoisses, d'épaisses ténèbres. Et je termine là aujourd'hui. Mais la prochaine fois, je vous lis déjà le début de la section suivante, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Le chapitre 9, verset 1, un verset qu'on lit souvent à Noël. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Bon, là on va en parler la semaine prochaine. Pour le moment, on reste dans les ténèbres. Sauf que Ésaïe n'est pas dans les ténèbres. Lui, il est dans la lumière. Donc, conclusion. Ça, c'est la définition de la foi, la confiance, dans Hébreux 11:1. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi concerne deux domaines. La foi concerne le futur, les choses qu'on espère, et l'invisible, les choses qu'on ne voit pas. Parce que les choses que l'on voit, on n'a pas besoin de foi. On a besoin de toucher, on peut réfléchir, mais l'avenir, personne ne connaît l'avenir, sauf Dieu. Ce qui est invisible, personne ne voit de ses yeux. Et surtout, la présence du Seigneur lui-même. Et on voit d'ailleurs, on ne va pas les lire aujourd'hui, mais j'aime beaucoup ce chapitre 11 des Hébreux, les héros de la foi, qui ont tous fait confiance à Dieu. Et ces héros de la foi, c'est marqué deux fois, ils ont vu ce que les autres n'avaient pas vu, ou ils ont fait confiance par rapport à l'avenir. Et ça veut dire que la confiance, c'est lorsque, finalement, on vit en tant que disciple. Voilà, j'ai mis les quatre marques d'un disciple dans mon livre Disciple 24. Par la foi, on aime Dieu, donc on revient à notre culte, on aime son prochain, on fait confiance à Dieu, ça on voit ici, on combat le bon combat pour obéir à Dieu. C'est les seules quatre choses qu'un disciple doit faire. On peut le conjuguer, le décliner dans tous les sens, mais là on a tout le Nouveau Testament en tant que disciple. Aimer Dieu, aimer son prochain, faire confiance à Dieu et obéir à Dieu. Et ça, c'est la marche par la foi, parce que ce que Akaz n'a pas voulu faire, c'était de regarder Dieu. Il est resté seulement sur le plan visible. Et je termine avec une illustration tirée du philosophe qui est décédé maintenant, philosophe chrétien Francis Schaeffer. Donc, dans un séminaire, il a pris une pomme, il a coupé en deux. Il a mis la moitié de la pomme au-dessus d'une feuille et l'autre moitié en dessous. Il dit, bon, la plupart de nos contemporains ne voient que la moitié visible. Mais nous, on voit l'autre moitié, c'est Dieu. Et on vit avec cela. Et c'est pour cela qu'on peut avoir confiance. Donc, voilà ce que je voulais tirer de ce chapitre. C'est dans la suite la dernière fois. Faisons confiance à Dieu parce que personne d'autre n'est digne de cette confiance.